Je vais dîner ce soir chez ce cher Serge.
Je vais dîner ce soir chez ce cher Serge.
Comment dire ?
Une émission proposée par le département d'études théâtrales de l'université Paul-Valéry Montpellier 3.
Produite par FM+.
Réalisée avec la collaboration de la revue Spintica.
En partenariat avec La Baignoire.
Lieu dédié aux écritures contemporaines.
Et les éditions Espace 34.
Faut que tu t'éclaircisses la voix. Tu essayes de le dire. Et voilà.
Je vais dîner ce soir chez Sarcel. Il y a du progrès.
Comment dire ?
Bonjour Thaïs.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu oui pour cette émission consacrée à Magali Mougel. Et donc pour l'émission Comment dire ? Qui passe sur les ondes de la radio FM+. Donc, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, alors je m'appelle Thaïs Cross et je suis étudiante en Master 2 à Paul-Var. Je suis en train de terminer mon Master 2 en théâtre. Et donc là, je postule pour continuer en thèse. Je suis en train de faire mon projet de recherche, etc. Et voilà, après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour me présenter ? Je suis comédienne aussi à côté. Enfin, j'essaie. J'ai fait la compagnie maritime à Montpellier que j'ai terminée il y a 2-3 ans. Et j'essaie de faire des projets avec des camarades de promotion de la compa. Et voilà, c'est à peu près tout pour me présenter.
Alors Thaïs, est-ce que tu peux nous présenter Magali Mougel, ta rencontre, toi, en tant que lectrice, ta première rencontre ?
Alors moi, la première rencontre que j'ai avec Magali Mougel, c'est pas en tant que lectrice, c'est en tant que spectatrice, parce que en fait, j'avais vu un spectacle dans un festival à côté de chez moi, vers Perpignan, d'une compagnie qui mettait en scène Lulu Project, et donc voilà, sur le coup, ça m'avait plu ce spectacle, parce qu'il jouait toutes les personnages de la pièce à seulement 3 acteurs, donc c'est-à-dire qu'il faisait plusieurs personnages en même temps dans une même scène. Alors je n'ai pas lu la pièce, donc je sais pas si c'est écrit. Si l'écriture appelle à cette mise en scène, mais en tout cas, j'ai trouvé que cette mise en scène était assez originale, assez intéressante et tout ça. Et donc après, quand je suis rentrée en master, je voulais faire mon projet de mémoire, enfin mon travail de mémoire de master 1 sur un peu des questions de travail, de représentation du travail, d'aliénation, d'oppression, etc. Dans des pièces de contemporaines. Et ma directrice de mémoire, du coup, Pénélope de Chauffour, m'a suggéré Magali Mougel. Et donc là, j'ai fait le lien avec la pièce que j'avais vue. Et donc, j'ai lu d'autres de ses pièces, notamment Suzy Stork et Erwin Motor. Et donc voilà, c'est comme ça qu'après, je suis venue à lire cette autrice.
Thank you.
Thaïs, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas encore le travail de Magali Mougel, est-ce que tu pourrais nous expliquer son écriture et qu'est-ce qui caractérise sa plume?
Déjà, premièrement, je dirais que quelque chose qui rassemble une grande partie de ses pièces, c'est l'angle thématique qu'elle choisit, c'est-à-dire que il est beaucoup question de porter son regard sur, il y a beaucoup les thématiques de délocalisation, de reconversion économique de certaines régions, de travail même, d'exploitation, d'oppression, d'aliénation, etc. Et toutes ces thématiques-là, ça va se retrouver à travers différents personnages dans, alors j'ai pas lu toutes ses pièces, mais dans en tout cas une grande partie de ses pièces. Et je dirais que ce qui caractérise son écriture, c'est deux choses principalement. Enfin, je sais pas vraiment si c'est principalement, mais il y a deux choses en tout cas qui me viennent en tête. C'est que je dirais que son écriture, c'est à la fois une écriture de l'invisible et des invisibles. De l'invisible parce que justement, c'est quelque chose qu'elle dit beaucoup en interview, en entretien, etc. Que en fait, elle s'attache à montrer au sein du quotidien, au sein d'un espace comme par exemple la famille, la femme au foyer, l'intime, ce qu'il y a de, comment les oppressions, les choses comme ça un peu systémiques viennent nous travailler au sein de l'intime. Et donc elle s'attache à montrer cette partie-là invisible qui vient se loger dans l'intime, dans les rapports sociaux, etc. Et je dirais que c'est aussi une écriture des invisibles parce que, comme je l'ai dit, les personnages qu'elle va choisir de montrer, c'est un peu les populations oubliées, entre guillemets. Elle aime beaucoup partir, par exemple, du fait divers. Par exemple, dans un des trois textes dans Guerrière ordinaire, qui est une, je crois, son troisième texte, si je dis pas de bêtises, il y en a un des trois textes qui est directement inspiré de l'histoire de Véronique Courgeot. Et donc voilà, ce point de départ-là, c'est pour ça que j'appelle ça des invisibles, parce qu'elle va poser son regard sur une partie de la population qu'on va considérer comme les invisibles, c'est-à-dire un peu monsieur, madame, tout le monde, etc. Pour résumer.
Ah bah super, merci.
Après, j'aurais pu dire encore des trucs, mais je connais pas les autres questions, donc je voulais pas déborder peut-être sur d'autres. Je sais pas ce que vous
en pensez. Après, si tu veux qu'on continue. C'est super, oui.
Parce qu'il y a j'aurais pu dire. Enfin, il y a un autre aspect de son écriture, mais j'ai peur d'en dire trop.
Non, mais c'est très bien.
C'est tout le truc de ce qu'elle appelle réinvention mythologique, c'est qu'elle part du fait divers, etc., et qu'elle mélange ça avec, à travers l'intersexualité par exemple, avec de la symbolique, du mythologique, etc., et que par exemple, le personnage qui est censé être Véronique Courgeot, enfin, inspiré de Véronique Courgeot, s'appelle pas Véronique, mais a un nom inspiré de la mythologie. Elle utilise beaucoup des noms inspirés de la biblique, la mythologie, etc., mais c'est ça qu'elle appelle la réinvention mythologique du quotidien, et c'est un peu ce truc-là qui est, pour moi, un peu central dans son écriture. Mais je ne sais pas si je le dis maintenant ou si peut-être c'est dans une autre question. Je ne sais pas c'est quoi les autres questions. Voilà. Pour ne pas tout dire d'un coup, je ne sais pas. Je ne sais pas sur ce que vous en pensez.
Bah, moi, je pense qu'on peut y aller. Comme là, tu étais sur le sujet.
Ça dépend.
Qu'est-ce que la réinvention mythologique, est-ce que tu peux nous en parler du travail
Attendez, je vais recommencer.
Ich bin ein Stein unter einem Stein, unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Flutbach, Wildbach, Bäche von meinen Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, Berg. Ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein unter einem Stein, unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Wutbach, Wildbach, Bäche von meinem Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. 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 Unter einem Stein, unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Wutbach, Wildbach, Bäche von meinen Tränen.
Mais donc, je disais que un autre élément qui est très caractéristique de son écriture, c'est quelque chose qu'elle appelle la réinvention mythologique du quotidien ou du fait divers, etc. Et c'est-à-dire que elle ne va pas seulement rester au niveau du fait divers, du quotidien, de l'espace intime, et qu'elle va aussi y ajouter un espace mythologique, symbolique, etc. Par exemple, les prénoms de ces personnages ont très souvent des noms bibliques ou empruntés à des figures littéraires ou mythologiques, etc. Dans Les Guerrières Ordinaires, le personnage qui est censé être Véronique Courgeot, entre guillemets, s'appelle pas Véronique, mais s'appelle Léda, qui est un personnage de la mythologie. Pareil, dans Erwin Motor, les personnages s'appellent comme les personnages des Liaisons Dangereuses. Quoique dans Erwin Motor, c'est un peu différent parce que il y a des morceaux de pièces de Heiner Müller, et donc en fait, c'est pas vraiment les prénoms des personnages des Liaisons Dangereuses, mais des prénoms des personnages de la pièce d'Erwin Motor, qui est elle-même une réécriture des Liaisons Dangereuses. Du coup, voilà, à travers toutes ces choses-là, elle va en fait mélanger ces deux espaces-là, l'espace un peu mythologique, littéraire, biblique, etc., avec le quotidien pour un peu, comment dire, donner une autre dimension en fait aux faits divers qu'elle raconte, et que en fait de son point de vue le fait divers, la mythologie, c'est au même niveau en fait. C'est un peu pour donner une dimension différente, mais et faire dialoguer ces deux choses là.
Dans les toilettes, il y a des palmiers, des paysages de mer, d'îles, d'ailleurs, le Pacifique, bleu, irréel, insensé comme couleur. Ce bleu de mer, un bleu terrible. On dit turquoise ? Oui, turquoise. Maman avait accroché des posters partout. Tahiti, Bora Bora et des autres îles. Vue du ciel. Des archipels, avait dit maman. Le bleu de la mer. Il n'y avait que là qu'il était possible de voir le bleu de la mer. Tu fermais les yeux et tu tirais la chasse. Et tu te disais, c'est comme ça le sac et ressac de la mer. Les vagues qui te chatouillent, les vagues qui te portent quand tu surfes. C'est comme ça. Tu regardais l'eau descendre et tu mettais la main dedans la cuvette pour sentir le mouvement. Je n'ai pas le bleu turquoise en vrai, mais j'ai l'impression des vagues. Ici, il n'y a que le ciel qui est immense. Et l'horizon à perte de vue. Les pieds dans l'eau, ça n'arrive que dans les flaques ou sous la douche. Alors maman en avait mis partout. des îles bordées à l'eau turquoise. Maman avait décrété en les affichant « Ça, c'est bon pour le moral. » Des posters comme ça. Tu les enlèves tous, tu dis à papa ? Qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir sous les yeux quand je chie ? Il répond. On pourrait au moins en laisser un ? Tu réponds. Ça crée de la frustration. C'est comme les catalogues. À force de trop regarder ce qui est ailleurs, tu en oublies ce que tu as de bien chez toi. On est bien ici, des archipels. C'est pour me culpabiliser ? Il dit. J'aime bien les archipels dans les toilettes. C'était un morceau de paradis, tu dis. Le paradis, c'est de la mythologie. Ça, regarde. Les pigeons, là, mes pigeons. C'est concret. Papa a pris les posters. C'était plus que des posters. C'était une toile. Un papier tapisserie. En réalité, c'était un patchwork mural que maman avait créé. Il a tout mis dans le tonneau de la cour. Il a versé un peu d'alcool à 90 degrés. Il a craqué une allumette. Tout a pris feu sous les yeux de papa. Tu t'assieds sur la cuvette des toilettes. Il ne reste plus que des lambeaux de papier. Ici et là. Des lambeaux comme dans une maison abandonnée. C'est moche. Va chercher tes feutres et dessine un soleil. Puis un deuxième, puis un troisième. Maintenant, les toilettes ressemblent aux grottes de Lascaux.
J'ai cru entendre et savoir que tu as rencontré Magali Mougel, mais voilà, pour une interview dans le cadre certainement de ton parcours universitaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, en fait, c'était dans le cadre de mon mémoire de Master 1 que j'ai fait du coup justement sur Suzy Stork et Erwin Motor. Et donc, dans le cadre de ce travail, je trouvais intéressant de lui poser des questions directement parce que j'avais lu pas mal d'interviews, pas mal d'entretiens, mais j'avais encore des questions qui n'avaient pas forcément été abordées, ou en tout cas l'angle que j'avais choisi n'était pas forcément celui qui était abordé dans les autres entretiens que j'avais lus, donc j'avais encore des questions à lui poser sur ces pièces. Du coup, j'ai réalisé un entretien avec elle, elle a eu la gentillesse de me l'accorder, et je ne sais pas trop quoi en dire, c'était très, très intéressant.
Et quelle réponse elle a pu apporter, justement, à des questions que tu avais ?
J'ai pas de souvenir exact d'une question en particulier, mais disons que c'était plus quelque chose de général, d'avoir un regard plus, c'est logique, mais intérieur sur son travail et son processus d'écriture, et notamment un peu toutes les sources qui l'ont inspiré. C'est quelque chose qui me sautait pas aux yeux parce que j'avais pas forcément les connaissances de tels ou tels auteurs que je pouvais rapprocher à son écriture. Mais c'était vraiment intéressant de voir, en fait, les auteurs qui ont pu être son inspiration, en sachant ça, après coup, on voit en fait l'influence de ça, de par exemple tout ce qui est théâtre du quotidien des années 70, etc. Elle disait que c'est quelque chose qui l'avait influencé, et c'est vrai qu'on en voit beaucoup la trace de ça dans son écriture et dans son théâtre. Donc du coup, ça c'était intéressant à échanger autour de ça.
C'est tout. Dans les escaliers, des pas se font de plus en plus sonores. La porte s'ouvre. La lumière se reflète dans le plafond. « Tu ne dors pas ?» dit-il. Tu réponds que non. Il faut dormir, dit-il. Il y a d'autres pièces dans la maison, mais ici, il n'y a qu'ici qu'il fait chaud. Dans cette chambre-là, suffisamment. Papa a réduit la maison à une seule chambre. Une seule chambre pour deux. Papa a condamné les autres chambres pour ne plus chauffer du vide. Il n'y a pas de petites économies. Depuis que maman n'est plus là, il n'y a plus qu'une chambre pour deux. Une seule. Qu'on se partage, papa et toi. Tout comme le lit, pour ne pas mourir de froid. Papa soulève la couverture de son côté du lit et se couche. Il faut dormir, il redit. Cette nuit ne laissera pas le temps aux cadavres de puer. Noir comme le charbon, personne ne s'aventure dans ce bordel. La pluie s'abat comme une chiasse. Seuls les sangliers s'aventurent dans la terre. C'est de la vase qui tombe sur les nuques. Peut-être que l'heure est venue, que l'eau va défoncer toutes les digues, se répandre et tout entraîner sur les chemins. Tu penses, papa dort. Et maman ? Thaïs, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la place du corps dans le travail de Magali et que raconte-t-il ?
Ce qu'il raconte, je dirais que ça dépend des pièces. Mais de manière générale, j'ai l'impression que son écriture met beaucoup en jeu, en fait, des éléments corporels. Il y a quelque chose d'assez organique. Enfin, il y a beaucoup de mise en jeu d'éléments organiques, d'éléments corporels dans son écriture, surtout dans Suzy Stork. Dans Suzy Stork, j'avais compté, il y avait dans une pièce qui est assez courte, qui fait même pas 50 pages, il y avait plus de 200 occurrences au corps. Donc c'est vraiment un élément qui est vraiment omniprésent. Pour le coup, dans Suzy Stork, je pense que c'était utilisé pour... le corps, c'est un, d'une certaine manière, alors entre autres, je pense, mais un témoin de ce que les personnages, en l'occurrence Suzy Stork, ne parvenaient pas à exprimer. C'est-à-dire que là où, alors pour résumer très rapidement la pièce, c'est l'histoire d'une femme au foyer, Suzy Stork, qui, à la suite d'un licenciement, se retrouve, au chômage et à vivre avec son compagnon, qui lui veut des enfants, elle n'en veut pas, mais il lui impose ce choix et elle se retrouve donc mère au foyer avec trois enfants sur les bras, qui est une situation dont elle ne veut pas et qui la ronge, etc. Et l'issue de la pièce est tragique, sans révéler les détails. Mais du coup, pour revenir donc à ça, à cette histoire du corps, le personnage de Suzy Stork, c'est un personnage qui est vraiment enfermé dans son quotidien, dans un quotidien qui est aliénant et répétitif, etc. Mais elle est quand même assez passive là-dedans et assez silencieuse. Et le corps va être un relais, va exprimer ce qu'elle ne va pas exprimer et va exprimer toute son aliénation, toute sa pourriture intérieure de cette situation. Il y a beaucoup de champs lexicaux, de la putréfaction qui revient. Donc dans Suzy Stork, je pense que le rôle, il a ce rôle-là de témoin. Après, dans d'autres pièces, il y a
comme
d'autres...
Comme Lichen, la putréfaction, ça revient. Enfin, voilà, ça tout revient ce qui aussi, est, oui. Voilà, la moisissure, interne,
oui,
externe.
Oui, c'est vrai. Après, dans Erwin Motors, ce qui était intéressant, c'est que le corps était manifesté de manière différente. La pièce se passe dans une usine, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait encore plus d'éléments corporels, etc. Mais là, au contraire, le corps se racontait en fait, à travers la parole. Les personnages, ils n'étaient pas vraiment en situation d'action, mais plus en situation d'énonciation, un peu. Je ne sais pas trop comment expliquer différemment. Et où, voilà, le corps passait par, à travers la parole. C'était une pièce qui était basée beaucoup plus sur l'énonciation, sur la parole, que sur des éléments plus organiques, contrairement à Suzy Stork. Pour raconter, là aussi, l'aliénation du travail, de l'usine, et l'oppression patriarcale, etc., par rapport aux thématiques de la pièce. Pour résumer, pour le dire un peu rapidement.
Je te regarde pousser, sonne un peu de travers. On dirait tu n'as pas l'air en forme. En forme de ce qu'il faudrait, my girl. Maintenant je te vois, my girl. Je te connais déjà, my girl. Je danserai avec toi, my girl, my girl. Je te regarde danser, mon cœur une étoile tissée. Dans le mauvais corps, j'imagine un tuteur. Si le vent veut te transformer en fleur, my girl. Maintenant je te vois, my girl. Je te connais déjà, my girl. Je danserai. Je te...
dans l'lichen, là, le rapport au corps revient, à la putréfaction, mais aussi, tu parlais du... dans son écriture, parler du quotidien. Là, il y a quand même un resserrement où on est comme dans un huis clos familial et on a... je ne sais pas si tu l'as senti aussi comme moi. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être enfermée dans cette maison avec le personnage principal. Et je voyais ça plus comme un scénario de film qu'une pièce de théâtre.
Bah oui, je me suis dit la même chose. C'est vrai que ce texte, il est écrit très différemment des textes que j'ai pu lire avant. C'est-à-dire que c'est une écriture qui est vraiment en prose et écrite presque comme quelque chose de narratif, comme un roman, etc. Il n'y a pas de distribution de la parole comme au théâtre, on a d'habitude avec des noms de personnages, etc. Là, il y a des locuteurs différents, mais c'est intégré au récit. Donc, je n'ai pas la réponse, mais moi aussi, je me pose la question de comment on peut mettre en scène une pièce écrite comme ça. Après, on retrouve les mêmes thématiques que dans ces plus anciennes pièces comme Suzy Stork, etc. Moi, ça m'a un peu fait penser à Suzy Stork dans la construction. Même si la pièce est très différente, même par sa structure et son écriture, mais oui, dans les thématiques aussi abordées d'un personnage, là, en l'occurrence, du coup, le père, qui est un peu coincé dans une situation qui est pas vraiment de son ressort, parce que là, c'est toute la question de la désindustrialisation, mais c'est plus des mines, donc je sais pas c'est quoi le terme exact.
De l'expulsion. De la région, de l'expulsion, de l'appropriation, etc.
Voilà, c'est ça. Où c'est des thématiques encore différentes, mais moi je trouve que j'ai retrouvé ce que j'avais déjà lu de Magali Mougel, c'est-à-dire toutes ces thématiques-là de comment partir de l'intime, comment partir d'une situation qui peut être quelque chose de l'espace intime, une maison, un père, sa fille, pour ensuite élargir le propos et parler de sujets plus larges qui dépassent largement le cadre de la maison. Donc à la fois, c'est un huis clos, mais à la fois, moi je trouve que ça l'est pas tant parce que le point de départ, c'est l'intime, c'est la maison, mais je trouve que ça
déborde après.
Voilà, c'est ça. Après, voilà. Ça dépasse en fait ce cadre-là de l'intime.
Pour
pas juste raconter une histoire interpersonnelle, mais une histoire qui est l'histoire de la région en fait, où un des personnages de la pièce, c'est presque, peut-être que j'exagère en disant ça, mais c'est presque le bassin minier de la région, quoi. Qui est presque un personnage à part entière. Presque.
Alors Thaïs, tu es toujours d'accord de lire un extrait de l'Lichen. En plus, on a la chance aujourd'hui d'enregistrer sur une place avec de la musique. Donc, on a un organiste qui se donne à cœur joie. Donc, quel morceau de texte tu as choisi de l'Lichen ?
L'extrait que j'ai choisi, c'est le début de la pièce. Parce que, en fait, le début et la fin de la pièce, c'est des extraits, des parties qui sont à part et en dehors du contenu vraiment de la pièce, puisque c'est des parties qui sont écrites à la première personne et qui ne rentrent pas vraiment dans la narration, dans vraiment le contenu de l'histoire, on peut dire, de la pièce. Et voilà, c'est un peu des moments que Magali Mougel utilise pour faire un peu venir de la figure de l'autrice dans sa pièce, en tout cas de elle-même, quoi. Et donc, je trouvais ça intéressant de lire ce début, parce que je l'aime bien et parce que... je trouve que ça place en fait le cadre de la pièce d'une manière assez originale, parce que en fait elle a écrit cette pièce en partie en étant en résidence d'écriture dans le Nord-Pas-de-Calais, à l'endroit où se déroule en fait l'Lichen. Et donc je trouvais ça assez intéressant et assez original, ou en tout cas original, on peut dire, de placer le cadre à travers des éléments réels de sa résidence d'écriture, etc. Mais mis en texte, quoi. Je suis à Lens et je remonte la rue Paul Bert. Les immeubles ont été vidés, des façades colorées en tôle les effacent. Alors quoi ? Pour cacher la laideur du paysage ? Je suis à Lens et j'arpente les friches, ramasse de la roquette, des pourpiers et des champignons. On me dit, vous devriez aller écouter les architectes ? Il y a un concours pour refaire l'îlot. Un couple de 75 ans verra bientôt sa maison rasée, tout comme une dizaine d'autres. On va faire des ateliers d'artistes. Je suis à Lens, je rencontre Cyril le géographe. On partage la même maison à la Cité des Provinces. On ne peut pas toujours bien dormir dans une des chambres. On bouge le lit pour trouver l'orientation. Les sols sont mouvants. Les portes ferment mal. Cyril cherche pour l'Europe. Je lui présente Christelle. Tu veux que je t'en parle de la réhabilitation de la cité ? Je suis en Twingo 1, vers Amande, quelque part dans le bassin minier. Je cherche le cimetière militaire allemand. Je ne sais pas pourquoi, je dois me rendre au cimetière militaire allemand. J'ai rendez-vous avec Cyril et Guy. J'attends une heure. Je me dis, qu'est-ce que je fous là ? Cyril et Guy arrivent, regardent les cerisiers au milieu des croix tombales. Quoi ? On n'est pas bien mieux au milieu des morts ? Nous sommes en avril. Cyril et moi, nous ne savons plus ce que nous devons écrire. De la poésie ou un rapport. Nous sommes au milieu des terrils jumeaux. Ou dans le cul de la base 11-19, comme on dit entre nous. Je dis, le sol a quelque chose à nous dire. Donc j'ai amené un extrait de Suzy Stork que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est très représentatif de ce dont je parlais avant, de son écriture et du regard qu'elle va poser sur les thématiques de ses pièces. Enfin, vous allez voir sans trop révéler l'extrait. C'est un extrait qui se passe vers la fin de la pièce, à la séquence 12, et qui est dit par un chœur dans la pièce, parce qu'il y a un personnage qui est le chœur. Et donc, voilà, je trouve qu'il est très... qu'il représente bien un peu le regard qu'elle porte sur les populations des invisibles, comme je disais au début. Et je trouve que ça représente son écriture et c'est son parti pris. Donc, je vais vous le lire. Ça se passe ici, exactement ici, quelque part dans un endroit où on pense qu'il n'y a que des crétins et des bouseux. Proportionnellement à la population ambiante, on pense que c'est une catégorie d'individus en sous-nombre et que par conséquent, ce qui concerne cette catégorie de crétins et de bouseux ne nous regarde pas. Qu'ils ont des problèmes, certes, mais que ce sont des vieux problèmes. Que ce qui se passe dans leur maison, ce sont des problèmes pas très importants. Que ce qui se passe dans leurs histoires de famille, ce sont des histoires d'arriérés qui sentent le café froid, le ciment, le chien et le linge humide. Je ne sais pas si j'ai été très claire.
T'as été très très claire. Merci Thaïs.
Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est pas la fin. Je ne mentirai pas. Tout ne va pas bien. Mais ce n'est qu'un au revoir. Jusqu'à demain. Je ne te l'apprends pas. Le contraire de tout n'est pas rien.
Je sais, le goût est amer. Je sais, tu crois que je m'en vais pour de bon. Et pourtant, si amer que soit mon départ.
Soit mon départ.